RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce mardi, nouvelle émission, nouveau 18-19 en Champagne-Ardenne avec nos amis qui nous écoutent du côté de Sainte-Menou, de Vitry-le-François, d'Épernay, de Châlons-en-Champagne, de Reims, de Sedan, de Vouziers, de Rethel, de Charleville-Mézières, où que vous soyez dans la Marne, dans les Ardennes, dans l'Aube, dans la Haute-Marne, ou que vous soyez en Champagne-Ardenne, et peut-être même dans l'Aisne d'ailleurs avec le DAB+, on est très content de vous retrouver ce mardi avec Kylian Jeannot, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Alexis.
Aujourd'hui la météo est prête.
Eh oui.
On espère que vous nous annoncerez de belles tendances. Ça sera à l'intérieur du journal régional de 18h30. Décidément, elle ne veut plus nous quitter. Manon Bréval est passée nous faire un petit coucou. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Manon.
Et pour vous, pas de mission aujourd'hui, si ce n'est de nous écouter. Merci pour votre fidélité comme celle de l'ensemble de nos auditeurs. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-François Boulanger pour un nouvel épisode de Mémoire chrétienne lourde, épisode 3, les figures féminines. On s'intéressera également à un maire qui nous parle. Ce soir, on ira dans la commune de Semide, dans les Ardennes, avec Hubert Houdin, qui est l'édile du village. Les crèches vivantes de Montrupt-les-Montois seront présentées par Claude Leroux, qui est secrétaire de l'association Les Saltimbanques de Pataflard. Et puis, nous serons aussi avec Pierre Cordier, député de la deuxième circonscription des Ardennes. Il parlera notamment de forêts primaires dans le département. Et puis, enfin, on terminera avec Chantal Rochette et Suzanne Conroe pour évoquer le Noël de la mission ouvrière. Pour cela, il faudrait être avec nous jusqu'à 19h. Voilà pour le sommaire de cette émission ce mardi. Pour commencer, nous, sans transition, j'allais dire, le mardi, il n'y a pas de doute, c'est avec Jean-François Boulanger que l'on débute. Il est avec nous par téléphone pour sa chronique Mémoire chrétienne. Bonjour.
Bonjour.
On continue notre série consacrée à Lourdes avec, pour ce troisième épisode, les figures féminines de Lourdes. C'est vrai que c'était important de consacrer une émission à ces figures. Pourquoi d'ailleurs ?
Pourquoi ? Parce que Lourdes est largement une affaire de femmes. C'est le reflet du catholicisme français du XIXe siècle qui est marqué par la place que les femmes y jouent, que ce soit par le nombre de pratiquants ou de pratiquantes, plus exactement, à un moment où une partie des hommes déserte l'Église, ou par celui des congrégations religieuses féminines dont c'est un peu l'apogée. Et Lourdes, c'est l'histoire d'une jeune fille pauvre et ignorante, Bernadette Soubirous, qui rencontre la Vierge Marie, donc deux figures qui méritent qu'on revienne sur elles car leur représentation évolue au fur et à mesure que le pèlerinage lui-même évolue.
Puisque vous en parlez, Jean-François Boulanger, peut-être revenons donc d'abord sur le personnage de Bernadette.
Alors, Bernadette Soubirous, c'est bien sûr la figure centrale de Lourdes, mais on peut considérer que assez rapidement, elle a été marginalisée et par ailleurs, cette figure au sens quasi physique du mot, va évoluer, en tout cas dans ses représentations. Bernadette est née dans une famille pauvre. Au moment des apparitions, elle a 14 ans. Elle a été frappée par le choléra, qui est une maladie très grave à l'époque, en 1855. Elle souffre d'un mauvais état général. Elle ne mesure que 1m40 et paraît 12 ans. Ajoutons à cela qu'elle n'a pas été scolarisée. Elle a travaillé très tôt en tant que bergère. Elle ne maîtrise pas la langue française, elle ne parle que le patois gascon, et elle n'a presque aucune éducation religieuse. D'ailleurs, au moment des apparitions, elle vient de commencer le catéchisme à 14 ans, dans le but de pouvoir faire sa communion. Donc voilà, ça c'est Bernadette au moment des apparitions. Et très vite, après les apparitions, on va la mettre à l'abri des regards curieux. On permet aux parents de racheter un moulin. Quant à elle, elle va être logée à l'école de Lourdes, qui est tenue par des religieuses, et où la mère religieuse parle d'elle en s'adressant à des ecclésiastiques dans ces termes, je la cite. « Tenez, mes pères, laissez-moi compléter votre instruction en vous disant ce que la Sainte Vierge n'a pas encore fait pour Bernadette. C'est de la convertir pour de bon. Avec toutes ses faveurs gratuites, elle se prépare au purgatoire, la pauvre Bernadette. » Vous voyez, elle n'est pas encore sainte dans l'esprit de la mère supérieure. « Et vous ferez œuvre de charité en priant pour qu'elle devienne meilleure. Croiriez-vous que tout à l'heure, nous avons eu, mademoiselle et moi, une discussion? Elle voulait jeter des pelures dans le panier de droite plutôt que dans celui de gauche. Et j'ai vu le moment où je devrais céder. Ma chère mère, fit l'enfant, les larmes aux yeux, je vous demande encore pardon. » Vous voyez, donc la pauvre Bernadette n'est pas vraiment dans une situation privilégiée. Et très vite, on l'envoie dans un couvent à Nevers, ce qui la met tout à fait à l'écart de Lourdes, et elle va y mourir à 35 ans, c'est très jeune quand même, en 1879. Mais on continue jusqu'au bout de la considérer comme une fillette. D'ailleurs, on va la maintenir novice dans le couvent pendant 10 ans.
Jean-François Boulanger, vous semblez cependant dire, si vous me passez l'expression, que Bernadette disparaît de la circulation.
Oui, effectivement, mais c'est difficile de la faire disparaître totalement, parce que les assomptionnistes qui ont organisé le pèlerinage sont, comme beaucoup, séduits par l'histoire de la pauvre petite fille dans la grotte, et ils sont touchés par son caractère populaire et universel. Mais très vite, pour la rendre supportable à tout le monde, il la nettoie, si je puis dire, pour la rendre plus présentable. Le processus est lancé dans les années 1860, notamment les photographies de Bernadette que l'on peut voir, je rappelle que Bernadette est dans un couvent, donc on ne la voit pas beaucoup, sont soigneusement choisies. Elle nous montre une jeune fille dans le modeste costume pyrénéen, mais justement, ça cache tout le reste, c'est-à-dire la tuberculose, les cheveux qui, au moment où les apparitions ont lieu, étaient souvent les cheveux d'une pouilleuse infestée de poux et les haillons qu'elle portait donc lors de ses apparitions. De la même façon, les sœurs de la charité de Nevers vont tenter de lui inculquer des rudiments de français parlés et écrits.
Qu'en est-il de l'autre figure féminine centrale de Lourdes, celle de l'apparition ?
Alors, l'apparition, hein, on emploie bien le mot apparition, non pas vierge, parce qu'au départ c'est une apparition qui va être réinterprétée progressivement en lui enlevant tous les aspects qui s'éloignent de la représentation sulpicienne de la Vierge telle qu'on l'a au XIXe siècle. Bernadette avait appelé l'apparition la petite fille ou la jeune fille, et toute sa vie, du fond de son monastère, elle n'a cessé d'insister sur la petite taille de l'apparition qui semble l'apparenter à une fée. Et elle paraît très jeune, cette apparition. Donc la taille et l'âge de l'apparition sont peu à peu transformés, les prêtres préférant adopter des représentations conventionnelles de la Vierge au moment de l'Annonciation, c'est-à-dire entre 15 et 17 ans. Et dans son histoire de Notre-Dame de Lourdes, qui date de 1869, qui a beaucoup contribué à la propagation et à la popularité du pèlerinage, Henri Lasserre lui donne 20 ans.
Mais pour nous, Jean-François Boulanger, je me permets, Notre-Dame de Lourdes, c'est d'abord une statue dans, j'allais dire, l'imaginaire collectif.
Ah bien sûr, parce que cette statue a été reproduite partout. Il y aura des reproductions de la grotte de Lourdes, et il y en a de très très nombreuses. Et là encore, il faut un certain temps pour que la représentation artistique de l'apparition soit en quelque sorte stabilisée par la statue que l'on va placer à l'entrée de la grotte. C'est cette fameuse statue qu'on appelle la Vierge de la grotte. Mais dès 1858, on place donc dans la niche de la grotte une autre statue, une petite statuette en buis. C'est les femmes de Lourdes qui la placent à l'endroit même où la Vierge est apparue.
À quel moment va apparaître l'actuelle statue ?
Alors, justement, en 1861, l'évêque de Tarbes va racheter la grotte à la commune, et à ce moment-là, on va commander une statue à un sculpteur lyonnais qui s'appelle Joseph Hugues Fabiche, qui a notamment sculpté la statue qui se trouve au sommet de la basilique Notre-Dame de Fourvière, qui domine, comme chacun sait, Lyon, et qui est un peu, je rappelle, la patronne de RCF. Hein. Cette statue, dont le coût est pris en charge par deux dames d'œuvre de Lyon, le Lyon va être placée dans la grotte de Massabielle, à l'endroit de l'apparition, mais elle n'est pas en buis, elle est en marbre de Carrare, c'est autre chose, hein. Et donc du 15 au 17 septembre 1863, le sculpteur vient à Lourdes pour rendre visite à Bernadette, qui va lui décrire ce qu'elle a vu, et il va réaliser cette statue sous le contrôle d'un prêtre local qui désire avant tout que la statue soit fidèle aux propos de la jeune femme. Mais Fabiche va en quelque sorte transformer la petite demoiselle, pour reprendre l'expression de Bernadette, en quelqu'un de plus grand et de plus âgé, nettement inspiré par les conventions de l'art académique de la fin du XIXe siècle, et c'est celle-là qui va être reproduite à de multiples exemplaires dans les reproductions de la grotte que l'on va faire un peu partout à travers le monde. Cette statue donc est consacrée le 4 avril 1864 devant 20 000 personnes. Son couronnement a lieu le 3 juillet 1876 en présence du cardinal archevêque de Paris, de 33 archevêques et évêques et de 100 000 fidèles. Et au pied de la statue est inscrit en arc de cercle la phrase en occitan, je ne parle pas l'occitan, je vous le traduis en français, je suis l'Immaculée Conception que la Vierge aurait prononcée à Bernadette. Cette mention d'ailleurs ne date que de 1913. Elle est vêtue, cette statue, d'un voile blanc, d'une robe blanche retenue par une ceinture bleue retombant en deux larges rubans. Elle a une rose à la couleur d'or qui s'épanouit sur chaque pied et un chapelet à chaîne d'or et à grains blancs tombe de ses mâchoires.
Que pense Bernadette de cette statue, pour finir, Jean-François ?
Alors, cette statue, justement, a été à l'origine du polémique sur son adéquation avec les visions de Bernadette. Vous aurez compris pourquoi si vous avez écouté cette émission. Bernadette, qui justement n'a jamais été pleinement satisfaite d'aucune des représentations de l'apparition et notamment de cette statue. Par contre, le choix de cette représentation académique permet de faire rentrer l'apparition dans le moule de l'orthodoxie, une apparition qui était née dans un monde paysan et périphérique, où on ne parlait pas le français, très loin de l'univers des dames d'œuvre, des bonnes paroisses parisiennes et lyonnaises qui, justement, vont relayer en quelque sorte le culte de cette statue.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur les figures féminines de Lourdes. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle chronique consacrée à Lourdes. Je crois que ce sera la dernière.
Ça sera la dernière. À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Direction les Ardennes, direction Semide, le maire de la commune, Hubert Houdin, nous parle.
Hubert Houdin, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, monsieur le maire Hubert Houdin. On est très heureux de vous avoir des Ardennes, bien entendu. Pouvez-vous nous présenter un petit peu la commune de Semide? Combien d'habitants et où se situe-t-elle pour nos amis marnais?
Ah, pour bien le situer, on se trouve, alors ça va être un petit peu prétentieux, mais si on place Semide au centre, on se trouve à 47 km de Chalon en Champagne, hein, en prenant par exemple la RD77. On se trouve à 45 km de Reims, si on va vers l'ouest, et 54 km de Charleville. Voilà. Le centre, on pourrait dire, c'est le fameux, peut-être, carrefour de Mazagran. On se trouve à 5 km de Mazagran.
Hubert Houdin, je vous interromps, mais bien sûr, ça fait loin au niveau des distances, mais vous n'êtes pas très loin de Vouziers cette fois quand même.
Alors, bien sûr, nous sommes... Oui, excellent rappel. Vouziers est notre centre d'accueil aussi, puisqu'on se trouve à 11 km de Vouziers.
Ça veut dire que si vous, il n'y a pas toutes les commodités, toutes les possibilités à Semide, mais en 11 km, on est tout de suite en ville, on est à Vouziers.
Oui, on est... Je ne dis pas qu'on y est tous les jours à Vouziers, mais on y va très très souvent. Hein.
Alors, combien d'habitants à Semide, Hubert Houdin?
Alors, dans les années 50, je fais un tout petit peu d'histoire, je suis né à Vouziers, il y avait exactement, quand j'étais élève, 317 habitants. Hein. Bon, il y avait des familles très très nombreuses. Dernier recensement, 185 habitants, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un nombre d'habitants qui a progressivement diminué. Par contre, j'ai le grand plaisir, là, parce qu'on vient de faire le calcul, on est remonté à 208 habitants.
Ça, c'est-à-dire
que là, oui, là, je suis très très content. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'attractivité du village, en travaillant beaucoup sur le cadre de vie, qualité de vie. On est classé 4 fleurs depuis plus de 20 ans. Ce qui est un record au niveau national, parce qu'on travaille beaucoup sur, effectivement, l'attractivité et puis la beauté, le côté un peu séduction du village, parce qu'effectivement, on a quand même une chance, c'est que le village se trouve dans un vallon avec 3 petites vallées en fracture du plateau calcaire qui est le plateau de Mazagran, qui va en direction Suip puis Reims.
Alors il faut dire, Hubert Houdin, qu'il y a donc des habitants qui sont là depuis longtemps, mais il y a donc peut-être des nouvelles arrivées. On en a entendu pas beaucoup parler avec le maire. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller quand même à la campagne. Ils ont souvenir du Covid, pas très loin de Vouziers, c'est idéal.
Oui, ouais, tout à fait. Il y avait des maisons, parce que la population a vieilli, il y avait des maisons vides, et en fait, là, maintenant, en urbanisme, on parle de dents creuses, eh bien, les dents creuses, elles sont utilisées, hein, et puis il y a des jeunes qui s'installent aussi, et ce qui est très, très bien. Très bien.
Alors, vous-même, oui. Hubert Houdin, on va revenir sur la commune, vous êtes maire depuis combien de temps à Semide?
Alors, je suis maire depuis... 2014. Il se trouve que je suis parti en retraite fin avril et deux jours après mon élection, je suis parti en retraite. Je travaillais dans une grande maison rémoise.
C'est ça, Hubert Audin, on vous a connu. Alors, finalement, dans votre activité d'aujourd'hui, on dit souvent d'ailleurs, on l'entend au congrès de l'Association des maires qui vient d'avoir lieu à Paris, il y a oui. beaucoup de gens qui capitulent parce que c'est une charge quand même d'être maire. C'est lourd plus qu'on ne le pense. Il y a des paperasses, il y a des gens qui vous embêtent, gentiment, mais parce que vous êtes le seul interlocuteur. On connaît son maire dans un village.
Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un des objets qui était abordé au dernier congrès. Je vais tous les ans au congrès. Pour moi, c'est très enrichissant, c'est passionnant. Ça m'apporte beaucoup. Et donc, oui, c'est une préoccupation. Alors, le gros problème, effectivement, on l'a encore traité hier soir parce que j'avais un conseil, disant que l'administratif, enfin la partie administrative est très exigeante et lourde. On en subit les conséquences, y compris pour les secrétaires, c'est très très dur. Et puis, il y a eu aussi les difficultés qu'on peut rencontrer avec la population. Ça n'a pas été mon cas pour ce bid. En revanche, l'atmosphère est
bonne.
Est bonne, oui. Alors, il y a une animation aussi avec les associations.
Hubert Audin, va revenir avec les associations, mais est-ce qu'il y a des projets qui sont actuellement en cours ou qui viennent de s'achever? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez sur le grill en ce moment?
Oui, c'est très très lourd. Bon, j'ai commencé de toute façon mon premier mandat de maire, j'étais adjoint auparavant, j'ai fait deux mandats d'adjoint. J'ai démarré par la réhabilitation d'un site historique qui est classé. C'est l'emplacement d'une pièce d'artillerie allemande, il y en a que 7, donc il fallait la rénover, la protéger, etc. Elle est aujourd'hui, c'est un lieu touristique. Et puis, le deuxième, c'est que j'ai entamé au premier mandat l'enfouissement de tous les réseaux, ce qui fait qu'on n'a plus un seul poteau, y compris même les lignes qui sont autour, les lignes à haute tension. Tout cela a été, ce qui fait que... ça contribue à l'intérêt du paysage.
Et ça fait, je vous interromps encore, Hubert Audin, mais pour les gens qui viennent, aujourd'hui ils sont attachés, les nouvelles populations, au développement durable, à l'environnement, au cadre de vie. Vous avez une quatrième fleur. Mais là, le fait que ça soit enfui, le fait que vous organisez le village, ça aussi c'est un élément majeur qui compte.
Ah oui, absolument. Oui. Parce qu'on a des visiteurs maintenant et qui sont, je veux pas être orgueilleux, mais qui nous disent mais qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est beau, etc. Parce qu'il y a énormément de verdure. Il n'y a aucun trottoir avec du béton, tout est enherbé. Et les maisons, les fermes sont ouvertes. Et voilà, donc c'est important. Alors cela dit, les projets ne s'arrêtent pas. Là, je démarre un très gros projet. On a une salle polyvalente qui est en mauvais état, c'est-à-dire qu'on va reconstruire une salle polyvalente, vraiment polyvalente au sens premier, au sens du terme, c'est-à-dire que salle polyvalente, ça ne sera pas simplement une salle de fête, mais on a l'intention, mais c'est un peu ce qu'on fait aussi, qu'elle soit ouverte aux associations.
Un lieu de rencontre.
Et puis, voilà. Et puis elle est contre l'église, et la salle qui existe et qui existera, notre église sur laquelle on vient de faire des travaux encore, de ravalement d'une part et particulièrement du clocher, on aura encore du travail, le cimetière est autour, mais lorsqu'il y a des obsèques, notre église n'a pas de bas-côté, et donc elle est vite pleine, et là, quand il y a par exemple des obsèques, les gens sont installés dans la salle polyvalente qui est tout près,
tout près.
Et on a l'intention, en refaisant la nouvelle salle, de maintenir cela et d'ajouter même une vidéo pour les deux.
Hubert Audin, on parlerait avec vous pendant des heures. D'ailleurs, on vous retrouvera tout prochainement, j'imagine, sur RCF. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci, au revoir Jean-Pierre Benoît.
Rassurez-vous Jean-Pierre, ce n'est bien qu'un au revoir d'ailleurs. On vous retrouve un peu plus tard ce soir, mais pour l'heure 18h30, place au journal régional. Avec les titres de ce mardi 12 décembre 2023, le père Denis Véjus a été nommé administrateur du diocèse de Châlons ce mardi matin. Témoignage. Focus sur la soirée de prière pour la guérison des malades organisée jeudi soir à l'église Saint-André de Reims.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Suite au départ de Mgr François Touvet au diocèse de Fréjus-Toulon, le père Denis Véjus, doyen à l'espace missionnaire de l'Abri et anciennement vicaire général, a été nommé ce matin administrateur diocésain. Réaction.
Je peux pas dire que je l'ai reçu avec une grande surprise, hein, puisque je faisais partie des prêtres qui étaient les plus proches collaborateurs de Mgr Touvet. Donc cette mission s'inscrit en quelque sorte dans la poursuite de cette mission avec quand même une marche sérieuse à franchir. C'est autre chose d'être vicaire général et puis d'être administrateur diocésain, c'est-à-dire de conduire l'église diocésaine le temps que dure la vacance du siège épiscopal. J'ai conscience de mes limites, mais je sais que je m'appuie sur des collaborateurs efficaces, ici à l'évêché en particulier, et puis les collaborateurs prêtres, enfin toutes les personnes qui sont au service de la mission. Voilà, on est appelés à œuvrer ensemble dans la suite de ce que nous a montré Mgr Touvet.
Il prend désormais la responsabilité en bon père de famille de l'église de Châlons en attendant l'arrivée d'un nouvel évêque.
Il consiste à conduire l'église diocésaine avec, dans un certain nombre de domaines, les pouvoirs d'un évêque. Donc c'est vraiment une responsabilité très importante, évidemment. Avec l'idée de ne pas introduire d'innovation, de nouveautés dans la vie pastorale, la vie diocésaine, pour ne pas engager le futur évêque, en fait. Conduire, aider l'église diocésaine à marcher sur les chemins de la mission.
Des propos recueillis par Jawed Saoudik pour RCF Cœur de Champagne. Jusqu'au 15 décembre, pour le Noël des enfants du foyer Saint-Remy, une collecte de jouets et de livres d'occasion en bon état est organisée en collaboration avec l'association Léo Club Reims Fleur de Lys. Le rendez-vous pour dons est à InfoJeune 41 rue de Talleyrand à Reims. Un autre rendez-vous ce jeudi soir à 20h30 en l'église Saint-André de Reims, avenue Jean Jaurès, pour vivre une soirée de prière pour la guérison des malades. Thierry et Elisabeth Mestralet précisent le déroulement de cet événement.
C'est une soirée de prière pour la guérison des malades. Alors, nous croyons que Jésus guérit toujours aujourd'hui et qu'il désire notre bien. Donc, nous avons voulu offrir ce temps de prière pour la guérison des malades à toute personne qui le souhaite.
Alors, on va commencer par un temps de louange pour Dieu, pour tout ce qu'on vit. Et puis ensuite, il y aura un petit topo qui sera donné par l'église de Bethel. Il y aura quelques témoignages de guérison. Et puis ensuite, nous prierons pour les personnes malades individuellement.
L'église de Bethel, ça ne vous dit peut-être rien, c'est une méga church, une église évangélique aussi appelée église américaine, installée à Redding en Californie. Elle forme des personnes au ministère de la guérison et n'est pas présente en France, mais cette semaine, plusieurs de ses membres sont sur le territoire pour rencontrer la communauté du Chemin Neuf avec qui elle entretient des liens étroits. Thierry Mestralet souligne ce qu'ils vont apporter lors de cette soirée.
Ils vont surtout nous faire le topo et puis nous faire des témoignages et puis ensuite prier individuellement pour chaque personne. La communauté du Chemin Neuf, elle est là pour, je dirais, en particulier pour la louange. On les aidera aussi en fonction de nos capacités. Mais voilà, ils auront plus particulièrement ce rôle de prière. Plusieurs d'entre eux se forment en tout cas au ministère de la guérison. Et bon, ils ont déjà pratiqué cela avec la communauté dans d'autres endroits. Et c'est vraiment très beau et très simple surtout. C'est pas quelque chose de spectaculaire avec des grandes envolées, comme on dit. C'est vraiment des prières simples, mais ils ont vraiment ce charisme, comme on dit.
Une soirée ouverte à tous, petits et grands, athées et croyants, malades ou non. Le rendez-vous, c'est donc ce jeudi à 20h30 en l'église Saint-André de Reims. Ce mardi a été signée la convention de coordination entre la police nationale et la police municipale de Charleville-Mézières. Dans le respect de leurs compétences respectives, leurs actions complémentaires permettent de prévenir et de lutter efficacement contre la délinquance et d'adapter la réponse aux problématiques du terrain afin d'organiser cette complémentarité au service des citoyens. Cette convention formalise le travail de coordination mené par les deux services. Hier soir, à Paris, était organisé le tirage au sort des Coupes de France de football. Chez les féminines, le Stade de Reims fera son entrée en lice à l'occasion des 16e de finale. Le week-end du 14 janvier, elles se déplaceront sur la pelouse de Roubaix qui évolue en Détroit. Une semaine plus tôt, le week-end du 7 janvier, donc, c'est l'équipe masculine qui entrera dans la compétition en 32e de finale. Un tirage favorable pour les Rouges et Blancs les envoie à Dinan-Léon, club de National 2. En revanche, un broglio autour de l'autre club de Reims, Sainte-Anne. Qualifié sur le terrain, le club pourrait être disqualifié pour avoir aligné un joueur suspecté d'être suspendu. La décision de la commission est attendue d'ici demain. Si la qualification des Rémois est confirmée, ils se déplaceront sur la pelouse de Saint-Omer, club de Régional 1. Ce mardi, signe le retour de la météo avec Kylian Janot. Kylian, vous êtes revenu de votre pause de midi trempé, votre belle mèche habituellement si bien coiffée était tombée, si bien même qu'elle goûtait, c'est dire, est-ce que le temps s'améliore demain, Kylian ?
Eh ben malheureusement non Alexis, pour demain la tendance climatique se maintiendra dans toute la région avec des conditions pluvieuses. Les précipitations devraient persister tout au long de la journée accompagnées de ciel nuageux. Malgré ces averses, les températures affichées resteront relativement douces pour la saison, s'approchant des 10 degrés Celsius que ça soit à Troyes, à Saint-Dizier tout au long de l'après-midi. Le matin, nous aurons le mercure qui montera jusqu'à 8 degrés Celsius dans les villes de Châlons en Champagne ou bien de Charleville-Mézières. Pendant la journée de demain, une brise de vent légère est prévue à travers l'ensemble de la région. Cette douce brise accompagnera les températures, ajoutant une touche de fraîcheur à cette journée. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les Lucies.
Merci Kylian d'avoir été avec nous. Manon, de faire la météo, ça ne vous manque pas trop ?
Oui, effectivement, j'avoue, ne plus annoncer la pluie et le beau temps avec mon beau sourire, ça me manque un petit peu.
Mais vous nous manquez aussi, mais on aime beaucoup Kylian qui fait ça très bien. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Avec Kylian, avec Manon, avec la rédaction de RCF Cœur de Champagne et celle de RCF Reims-Ardennes, une crèche vivante ce samedi 16 décembre à Maurupt-le-Montois. Depuis maintenant 13 ans, les membres de l'association Les Saltimbanques du Pataflard de Maurupt-le-Montois organisent une crèche vivante dans leur commune. Le rendez-vous, c'est ce samedi le 16 décembre, donc à 18h30, rue de Sermaiz. Cette année, plusieurs choristes de la paroisse de la Sceau de Parny-sur-Sceau et de la Clé des Champs de Vitry-en-Pertois ont rejoint l'aventure. Vous ne partirez pas sans visiter l'exposition de près de 200 crèches venant d'une vingtaine de pays. Les précisions de Claude Leroux, secrétaire de l'association Les Saltimbanques du Pataflard.
Claude Leroux, bonjour.
Bonjour Gérald et bonjour à tous.
Vous êtes secrétaire de l'association Les Saltimbanques du Pataflard de Maurupt-le-Montois. Alors deux choses, Maurupt-le-Montois, ça se trouve où ?
Alors Maurupt-le-Montois, c'est dans le sud-est de la Marne. Et ça se trouve dans le triangle entre Vitry-de-François, Saint-Dizier et Bar-le-Duc. C'est au milieu du triangle, en fait.
Et c'est proche de Parny-sur-Sceau.
Oui, on a 2,5 km de Parny-sur-Sceau.
Et alors, le Pataflard, ça veut dire quoi ?
Le Pataflard, c'est le nom d'un lieu-dit de la commune, en fait.
D'accord, donc vous avez décidé de prendre un nom local pour votre association. Alors votre association, elle organise quoi toute l'année ?
On a déjà organisé des brocantes, des feux de la Saint-Jean, des repas. Et principalement au mois de septembre, on organise un rassemblement de voitures anciennes. Et puis là, au mois de décembre, la crèche vivante.
Alors cette crèche vivante, c'est une tradition.
On fait la représentation depuis 2013.
Dans cette crèche vivante, vous êtes combien ?
Alors, on est une dizaine de participants et on a un vrai bébé qui participe avec nous.
Vous avez réussi à convaincre une maman de venir dans votre groupe ?
Oui, alors en fait, le bébé, c'est mon petit-fils. Cette année, ce sera mon petit-fils. Mais sinon, tous les ans, on essaie d'avoir un bébé, on s'organise pour trouver un bébé dans la commune.
D'accord, et chaque année, vous arrivez à trouver le bébé. Et alors le bébé, bien sûr, dans la vraie crèche, il est entouré d'animaux?
Alors oui, il y a des poules, et nous aurons une brebis avec un agneau.
Alors on va dire que cette manifestation, elle a lieu le samedi 16 décembre à 18h30, rue de Sermaz. Je pense que les personnes qui vont souhaiter venir vont facilement le trouver.
Oui, oui, il n'y a pas de souci, ça sera fléché, il n'y aura pas de problème pour trouver l'emplacement de la représentation.
Autour de cette représentation, il y a également la participation de la chorale paroissiale Saint-Bernard-de-l'Assaut.
Cette année, on aura la chorale paroissiale Saint-Bernard-de-l'Assaut, qui sera rejoint également par des membres de la chorale Sainte-Geneviève de Vitry-en-Pertois. Ça fait déjà 4-5 ans que la participation de la chorale de Saint-Bernard-de-l'Assaut. Et là, comme ils n'ont pas assez de membres, ils ont demandé à certains membres de la chorale paroissiale de Sainte-Geneviève de Vitry-en-Pertois.
Donc ça vous fait une vingtaine de personnes pour chanter?
Oui, 15-20 personnes, oui.
D'accord.
Et sera accompagné d'un accordéon.
Dans cette salle où l'on va chanter, où vous allez faire votre représentation de crèche vivante, il y a également une exposition de crèche.
Déjà, la représentation, c'est en plein air. Et pour l'exposition de crèche, c'est dans une salle. Alors cette exposition de crèche, il y aura plus de 250 crèches de divers pays. Parce que on voyage beaucoup avec mon épouse et en fait... À chaque voyage, on essaie de ramener une crèche de pays différents.
Et là, vous pouvez estimer le nombre de pays que vous avez pu visiter, ramener une crèche?
On est déjà au moins une quinzaine de pays.
Donc sur les 200 crèches présentées, ça représente une vingtaine de pays?
Oui, c'est ça.
C'est ça, d'accord. Oui. Claude Leroux, je rappelle que vous êtes le secrétaire de l'association Les Saltimbanques du Pataflard de Morhul-Montois, que votre association propose... Donc ce samedi 16 décembre à 18h30, une crèche vivante dans la rue de Sermaz. Claude Leroux, merci.
Merci à vous. Et puis venez nombreux admirer notre représentation.
Des propos recueillis au téléphone par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Rendez-vous est donné pour la représentation de la crèche vivante ce samedi 16 décembre à 18h30 rue de Sermaz à Morhul-Montois. Demain, on vous emmènera et on vous présentera une autre crèche vivante à Charleville-Mézières cette fois.
Le 18-19 sur RCF.
L'actualité politique bouge de minute en minute. Depuis le rejet par l'Assemblée nationale de la loi immigration hier, le député de la deuxième circonscription des Ardennes, Pierre Cordier, y revient tout de suite avec Jean-Pierre Benoît pour en parler. Mais pas que, l'actualité c'est aussi les forêts ardennaises, je crois, Jean-Pierre.
Pierre Cordier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors en ce moment, à l'Assemblée, on parle beaucoup, bien sûr, de la loi immigration. Certes, il y a bien sûr des avis fort différents, mais il est sûr qu'en ce moment, il y a quand même une problématique autour de l'immigration.
Oui, c'est un vrai sujet et il suffit d'écouter ce que disent nos compatriotes quand on les rencontre dans nos permanences ou sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet par rapport à l'insécurité grandissante dans ce pays et le bilan d'Emmanuel Macron depuis 7 ans ajouté à celui de François Hollande 5 ans avant n'est pas très reluisant. C'est même un euphémisme de le dire. Donc il faut effectivement prendre des mesures. Et puis le contexte international inquiète aussi énormément nos compatriotes. Donc c'est vrai que tout ça, l'insécurité ambiante, le contexte international, eh bien les gens nous demandent aujourd'hui de prendre des mesures fortes dans ce domaine.
On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. On fera avec vous une émission spéciale sur ce sujet parce que ça mérite d'avoir un peu de recul puis de connaître un peu ce qui va se passer, l'évolution au cours de semaine à l'Assemblée, si vous en êtes d'accord, Pierre Cordier.
Oui,
je vous propose de retourner dans la forêt des Ardennes parce qu'on a vu des articles qui nous parlent d'une forêt primaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une forêt primaire? Parce que vous êtes très positionné sur cette question, Pierre Cordier.
Il s'agit tout simplement de mettre une cloche sur une forêt, c'est-à-dire d'empêcher toute activité humaine, tout développement économique, toute pénétration d'individus dans cette forêt. Alors, c'est une association qui s'appelle Francis Allais, qui est un botaniste, biologiste, hurluberlu et tout ce qu'on veut, qui a créé une association et qui souhaite, en Europe de l'Ouest, faire la promotion d'une forêt primaire dans laquelle l'activité humaine serait réduite à zéro. Donc ça sous-entend plus aucune activité sportive dans la forêt, ça sous-entend plus de cueillette, ça sous-entend sous-entend plus d'affouage. Hein. L'affouage dans les Ardennes, c'est quelque chose d'important. Les gens qui vont faire leur part de bois dans la forêt, ça sous-entend plus de pêche, ça sous-entend plus de chasse. Alors on dit non, non, mais vous caricaturez, c'est tout à fait faux, l'homme pourra encore y aller. Il suffit de se reporter à ce qui se passe en Europe de l'Est. Hein. Vous savez, en Roumanie ou en Pologne, il y a des forêts primaires où l'accès de l'individu est totalement interdit. Et donc, moi, ça me pose problème. Et je serai, Jean-Pierre Benoît, un opposant plus que farouche à ce projet sur le département des Ardennes.
Parce que certains vous diront peut-être, quel est le but de cette forêt primaire ? C'est de conserver une forêt musée, en quelque sorte.
Oui, on sait que une forêt musée, oui, on sait que la forêt, c'est un puits de carbone. Hein. Il n'y a pas besoin d'être dans l'association de Monsieur Allais pour être écologiste, entre guillemets, et vouloir préserver nos espaces naturels. J'en suis le premier avocat, cet espace naturel, parce que cette forêt des Ardennes, elle est magnifique, toutes les personnes qui sont allées le reconnaissent, et bien entendu, il y a des précautions à prendre, et il ne faut pas faire n'importe quoi dans cette forêt, mais il n'y a pas besoin non plus de la mettre sous clause, d'interdire tout accès pour la préserver. Je crois qu'il y a aussi un parc naturel régional dans les Ardennes hein, qui a été voulu il y a très longtemps à l'époque par Jean-Claude Etienne qui était président du conseil régional de l'époque avec le soutien de sa majorité et ça dépassait les clivages politiques d'ailleurs. Et ce parc naturel régional justement associe préservation de l'environnement et développement économique. Donc on a déjà une structure qui est soucieuse de ce qui se passe sur cette forêt. C'est pas la peine d'en rajouter et honnêtement les Ardennais sont très remontés contre ce projet. Et j'en suis heureux d'être le porte-parole parce que voilà, on est excédé par ça, on n'a pas besoin de ça dans les Ardennes. On a déjà connu tellement de crises économiques et de reconversions industrielles compliquées que ce joyau écologique, ce joyau naturel, on y est très attentif, on y fait très attention et on n'a pas besoin d'écologistes ayatollistes pour venir lui dire ce qu'on a à faire dans les Ardennes.
Et cette zone de forêt simplement, elle était importante, la zone en hectares, enfin en surface.
Eh bien, écoutez, il suffit de se reporter sur le site de M. Allais, hein. Faut pas, voilà, c'est pas, on n'est pas au café du commerce ici, il faut aller sur les sites, regarder précisément ce qui est dit, et vos auditeurs verront qu'on parle de 70 000 hectares qui partiraient de la Belgique, qui traverseraient les Ardennes et qui iraient jusqu'à la frontière du Luxembourg. Donc, vous voyez,
c'est très impressionnant.
Ah oui, c'est impressionnant.
Je pensais que c'était une petite forêt ou une grosse... Enfin là, ah non, ça n'a rien à voir.
Ah non, 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 c'est là. Et vous savez, les espaces qu'il y a, Jean-Pierre Benoît, à l'est de l'Europe, c'est des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'hectares, de milliers d'hectares qui sont concernés par cette forêt primaire où l'accès de l'homme est formellement interdit. Alors on nous dit, si, vous pourrez quand même aller promener, vous pourrez quand même aller ramasser quelques myrtilles ou champignons, mais il faudra marcher sur des caillebotis pour pas abîmer le sol, etc. Enfin, on est vraiment dans la quatrième dimension. Et moi,
très honnêtement, les forêts des Ardennes sont fréquentées par des touristes, c'est vrai, mais tout de même, c'est pas le métro à 18h à Paris. Enfin, il y a quand même de l'espace, il y a quand même... Et puis les gens font attention, moi je suis assez d'accord avec vous, Pierre Cordier.
Oui, c'est pour ça que les gens sont remontés aujourd'hui par rapport à ce projet et que moi j'ai lancé une grande pétition sur toute la circonscription que je représente à l'Assemblée nationale où les gens ont reçu, sont en train de recevoir dans leur boîte aux lettres mon petit journal sur lequel il y a un coupon. Je les invite à me renvoyer ce coupon pour s'opposer à cette forêt primaire. Il s'agit pas, c'est pas une démarche politique. Les gens qui renvoient le coupon, c'est pas de dire je trouve que Pierre Cordier, le député des Ardennes, est super. C'est pas ça du tout. C'est s'opposer au projet, que les gens soient de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, il faut qu'ils se mobilisent contre ce projet de forêt primaire et ce coupon en est aussi un témoignage.
Les personnes aujourd'hui, ils savent bien, c'est les mettre devant leurs responsabilités. Dans ce monde où il faut faire preuve d'écologie, de faire attention à la nature, il y a plein de gens qui font attention. Il faut pas simplement dire on va mettre des barbelés pour les empêcher d'y aller, il faut peut-être leur apprendre à être responsable.
Il y a ça aussi, ça passe par l'éducation et notamment aussi dans les écoles primaires, dans les collèges, où je pense que l'éducation nationale a un rôle à jouer dans ce domaine. Bien entendu, il ne peut pas faire tout, hein, les enseignants ne peuvent pas faire tout, mais cette démarche de sensibilisation. Mais vous savez, Jean-Pierre Benoît, moi je crois énormément à l'écologie au sein de la cellule familiale. Moi je suis très attaché à la famille et c'est vrai que c'est aussi aux parents à dire aux enfants, faut pas mettre le chauffage trop fort, quand tu prends ta douche, ben, tu ne resteras pas une demi-heure, le tri sélectif, voilà, l'écologie de proximité, c'est ça, et surtout ne pas culpabiliser les gens. Quand je vois aujourd'hui qu'on montre du doigt l'Occident en disant aux aux Européens, aux pays occidentaux, c'est vous qui polluez. Je voyais quelques reportages, il y a quelques jours, des reportages très sérieux dans les pays en voie de développement, où là, les gens jettent leurs ordures ménagères dans les ruisseaux. Et c'est les ruisseaux qui font office de camions poubelles. Donc, à un moment ou à un autre, Jean-Pierre Benoît, je pense aussi que la problématique, elle doit être envisagée au niveau de la planète. On voit, c'est discuté actuellement aussi au niveau de la COP28. On voit les grandes réticences des pays producteurs de pétrole sur les énergies fossiles, etc. Mais arrêtons de culpabiliser le citoyen lambda, celui qui est chez lui, qui va dépasser un peu les degrés de sa chaudière, ou qui va prendre une douche un peu plus importante, ou qu'on n'aura pas tout à fait trié les ordures. Je pense qu'il faut aussi être un peu vigilant sur ce qui se passe dans d'autres pays, et arrêtons de culpabiliser notamment les Français aussi. Hein, parce que quand on voit les discours ministériels du ministre de l'écologie aujourd'hui, on a l'impression que c'est la France qui est toute seule responsable de la pollution de la planète.
Eh oui, comme dans tout, il faut raison garder. Merci Pierre Cordier. On n'a pas le temps d'en dire plus parce que le temps passe très vite avec vous. On vous souhaite, on aura peut-être l'occasion de vous retrouver la semaine prochaine si on fait le point sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à propos de l'immigration. On vous souhaite par avance de bonnes fêtes de Noël, en souhaitant bien sûr à tous les Ardennais, mais on aura l'occasion de le faire.
Oui, et préservons nos traditions liées à Noël aussi, Jean-Pierre Benoît. Les traditions liées à Noël, j'y suis attaché, les crèches, les sapins, les décorations. On voit un certain nombre aussi de mouvements politiques qui sont opposés à tout ça. Je pense qu'il faut, voilà, on est une civilisation judéo-chrétienne, il faut qu'on le reste, et moi j'y suis attaché.
Merci Pierre Cordier d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci Jean-Pierre Benoît.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Une dizaine de minutes à passer encore ensemble ce soir dans ce magazine régional. Comme chaque année, la mission ouvrière de Châlons-en-Champagne célèbre Noël lors d'une soirée festive. La prochaine se tiendra ce vendredi. Pour nous en parler, deux invités de l'Action catholique ouvrière sont avec Christopher.
Chantal Rochette, aide-soignante et membre de l'équipe ACO, Action catholique ouvrière. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, accompagnée de Suzanne Conrault, secrétaire accueil de l'évêché et aussi secrétaire accueil sur le sanctuaire de l'Épine et notamment responsable de l'Action catholique ouvrière. Bonjour Suzanne.
Bonjour Christopher, bonjour les auditeurs.
Avec vous, on va parler donc de cette prochaine soirée, mais avant de rentrer vraiment dans la programmation de ce qui va se dérouler et l'objet de cette soirée, est-ce qu'on peut faire un rappel à nos auditeurs, la mission ouvrière, son objectif ou ses objectifs d'ailleurs, Suzanne ?
Donc la mission ouvrière a été créée à l'origine par des évêques, puisque c'était un détail qui avait été relevé sur le manque des personnes auprès des ouvriers, la religion entre autres et l'accès à ces personnes au sein de l'Église. Et donc la mission ouvrière a regroupé les enfants, l'ACE, l'Action catholique des enfants, les jeunes, la jeunesse ouvrière chrétienne avec la JOC,
oui.
Les adultes avec la CO, l'Action catholique ouvrière, mais aussi, et on en a plus sur notre secteur du diocèse, mais dans certains, sur le plan national, il y en a encore, des religieux et religieuses en quartier populaire qui interviennent beaucoup, et aussi des prêtres et diacres ouvriers ou en quartier populaire aussi.
Donc la mission ouvrière, c'est vraiment national qui va s'installer sur le plan local, régional, c'est le cas donc du côté de Châlons-en-Champagne, mais on a aussi donc dans d'autres communes de notre territoire, notamment dans les Ardennes, dans l'Aube.
Tout à fait, notre grande région, d'ailleurs on se réunit régulièrement en grande région avec Reims, donc il y a des équipes sur Reims et sur les Ardennes, il y a aussi une ou deux équipes sur Troyes. Il y en a deux sur Épernay et il y en a trois sur Châlons.
Donc il y en a quand même pas mal hein, dans notre territoire Champagne-Ardennes. Alors, il faut être plusieurs actions, notamment cette célébration de Noël qu'on va présenter dans quelques instants, Chantal et Suzanne. Mais il y a d'autres actions que vous menez tout au long de l'année. Est-ce qu'on a des exemples qu'on peut présenter à nos auditeurs, Suzanne ?
Alors, il y a eu des partages qu'on appelle effectivement des partages en ACO. Ce sont des temps qui sont attachés à l'actualité. Et beaucoup, c'est surtout quand il y a des soucis qui font qu'il faut bouger, qu'il faut y aller en action. C'est pour ça qu'on est en ACO. C'est dans le milieu du travail, ça peut être au milieu politique. Les élections, interpeller les gens sur les élections et l'importance de voter.
De les encourager.
Les encourager. Il y a aussi aussi quand il y avait les manifestations pour les retraites ou pendant les gilets jaunes, il y avait beaucoup de membres de la mission ouvrière qui étaient acteurs et qui étaient présents au cœur de ces manifestations pour justement partager, faire connaître et faire connaissance avec ces personnes qui se sentent dans la rue un peu démunies et avec lesquelles on les rejoint pour partager, échanger sur leur situation de vie.
Alors, j'ai une question, mais c'est à tour de rôle, Chantal, Suzanne. Qu'est-ce qui vous a encouragé à être membre de l'équipe et justement à participer à ces différentes actions que Suzanne vient de proposer, à notamment encourager, soutenir pour des élections ou pour d'autres événements de la vie, Chantal?
Alors, avant de parler de la CO, j'ai été quand même jociste, donc j'ai été engagée en tant que jeune au niveau de la JOC.
Oui.
Ensuite, je ne me voyais pas ne pas continuer. Donc, quand on passe du cap au jeune, on passe en adulte. Et
oui,
effectivement, en tant qu'adulte, je me suis sentie concernée parce que aussi engagée au niveau syndical dans mon établissement, je pense qu'il est important qu'on donne du sens et de la voix aux plus petits. Et les plus petits, c'est notre mission de les rejoindre. Et malheureusement, les petits, ben, c'est des gens à qui on ne donne pas souvent la parole. Là, dans les manifestations par rapport à la retraite, j'ai rencontré beaucoup de gens où on dialoguait de choses et d'autres, du pouvoir d'achat, la difficulté à se loger, le travail, la précarité, etc. Et notre mission à nous, en action ouvrière, c'est justement de rejoindre tous ces gens. Il y a aussi, Suzanne n'en a pas parlé, mais je peux peut-être ajouter des gens qui ont été proches des migrants, aidant les migrants à se loger, à faire leurs papiers. C'est vraiment la mission de Jésus, en fait, notre mission de Jésus, et encore plus par rapport à Noël, c'est de rejoindre les plus pauvres et les plus petits.
Suzanne Corot.
Eh bien, moi, j'ajouterais aussi, effectivement, que quand on est engagé à la fois dans l'Église par notre mission et aussi au niveau de la société, donc pareil, hein, je suis aussi syndiquée, et c'est vrai que c'est d'être attentif à toutes ces personnes à qui on peut donner un petit peu la parole. On ne leur donne pas nécessairement des solutions, mais on les aide et on les soutient moralement à leur vie du quotidien, et ça, c'est très important.
Donc, plusieurs actions que vous menez tout au long de l'année. Chantal Rochette, Suzanne Corot, alors, notamment ce rendez-vous du 15 décembre, ce vendredi à Châlons-Champagne, avec plusieurs temps forts. Chantal Rochette, est-ce qu'on peut présenter le déroulement de cette soirée?
Alors, cette soirée se déroulera par un accueil. On accueillera donc les gens venus à notre célébration dans la crypte sous l'église Saint-Antoine, au 1 rue Lavoisier à Châlons. C'est à partir de 17h30. Bien sûr, vous êtes tous invités à venir nous rejoindre. Il y aura cet accueil, ensuite une célébration avec des prêtres. Et dans cette célébration, il y aura plusieurs temps. Il y aura un temps d'accueil, un temps de célébration, un temps de mise en petit carrefour pour réfléchir entre nous de ce que c'est que l'espérance aujourd'hui, ce que ça résonne en nous, l'espérance. On pourra l'écrire sur des étoiles. Et puis, on ne va pas tout vous révéler parce que
surprise.
Sinon, voilà, vous viendrez pas cette célébration.
Mais en tout cas, on peut dire, Suzanne Corot, que tout le monde est invité.
Tout le monde est invité, effectivement. C'est un moment où on peut voir justement des personnes que l'on côtoie pas dans notre quotidien, et ben c'est de venir les rencontrer et de faire connaissance.
Et avant de nous quitter, Chantal Rochette, quelques petits messages à transmettre?
Alors, nous avons quelques petits messages à lire.
Oui.
Qui sont dans notre message du Noël en mission ouvrière. Alors, le premier, ça concerne les enfants. Une enfance sereine permet aux enfants de regarder avec confiance vers la vie, vers demain. Gare à celui qui étouffe en eux l'élan joyeux de l'espérance. C'est le pape François qui a écrit ce mot.
Suzanne Corot.
Alors, il y a aussi les messages qui de Georges Guérin, qui a été le fondateur de la JOC, et qui disait « Parce que le Christ est votre vie, moi je crois en vous ». Et ça, c'était une parole qui donnait aux jeunes. Parce que souvent, les jeunes, on les rabaisse toujours au saccage. Ils cassent, ils broient. Mais il y a aussi des jeunes qui se défendent et qui arrivent à trouver des moyens pour pouvoir développer des choses. Et il y a aussi le pape François qui nous dit « C'est votre mission comme action catholique de les rejoindre tels qu'ils sont, de les faire grandir dans l'amour du Christ et du prochain, et de les porter à davantage d'engagement concret pour qu'ils soient les protagonistes de leur vie et de la vie de l'Église, afin que le monde puisse changer. » Donc c'est des mots qui nous portent et qui nous révèlent l'importance de notre engagement et de notre mission.
Eh bien, c'est sur ces petits mots qu'on vient de transmettre que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Chantal Rochette, aide-soignante et membre de l'Action catholique ouvrière, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF avec Suzanne Conraud, secrétaire à l'accueil de l'évêché et sur le sanctuaire de l'Épine et responsable de l'ACO à Chalon. Très bonne fête de fin d'année à vous. Très bon rendez-vous du 15 décembre prochain. Et à très bientôt sur RCF.
Merci, Christopher.
Merci à toute l'équipe. Merci, Christopher Fausten. On rappelle le rendez-vous. Noël de la mission ouvrière, c'est ce vendredi 15 décembre à partir de 17h30 à la crypte de l'église Saint-Antoine à Chalon en Champagne. Ainsi se referment les rendez-vous que l'on vous annonce aujourd'hui, mais d'autres sont à venir cette semaine, notamment dès demain, 18h10, avec un nouveau magazine régional. Merci Manon d'être passé nous faire un petit coucou.
C'est avec plaisir, merci à vous.
Et merci Kylian d'être resté avec nous, on vous retrouve demain 18h10.
Merci Alexis, à demain.
Fidèle au poste, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Dans quelques instants, l'information nationale prend le relais. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.